debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, déprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 et sur Radio Déclic avec le collectif Debout, collectif féministe mixte. Et aujourd'hui, nous sommes quatre au micro. Moi, c'est Maya.
Katia.
Alison.
Oriane.
Donc ce mois-ci, on a choisi comme sujet les hommes et le féminisme. Nous avons interviewé des hommes de notre entourage et des hommes de notre collectif. Et vous entendrez cinq témoignages. Alors nous avons également étudié les prises de position des hommes engagés dans la lutte féministe et nous consacrerons deux émissions à ce sujet. Donc cette première émission a pour objectif de décrire la situation d'inégalité entre les hommes et les femmes et la position des hommes engagés pour l'égalité. Et la seconde émission en septembre sera consacrée aux moyens d'action développés par les hommes pour la lutte féministe. Donc on rappelle que le collectif Debout est un collectif féministe mixte, donc ouvert aux hommes. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir à nos réunions mensuelles. La prochaine réunion est en septembre.
Il y en a une le 15 juillet.
Ouais. 15 juillet et la prochaine en septembre.
Voilà, et par rapport à cette thématique, on s'est posé la question, est-ce que le féminisme est un mot qui exclut les hommes? Le mot féminisme exclut-il les hommes? Féminisme, femme. Le mot féminisme contient les mots femme, mais pas les mots homme. On pourrait donc croire que le mot s'adresse uniquement aux femmes et qu'il est normal que les hommes se sentent moins visés et concernés par les mots féminisme. Ceci est par contre contradictoire avec le but du féminisme, car le sens large du féminisme est la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, et par ceci, les hommes comme les femmes sont concernés. Ils et elles devraient être intéressés pareillement à plus de justice dans notre société.
Alors pourquoi le féminisme est toujours un gros mot aujourd'hui?
Le féminisme est toujours un gros mot parce qu'à lui sont attachés beaucoup de mauvaises préjugés comme les féministes sont en guerre contre les hommes, elles sont des mal baisées, elles sont des femmes hystériques. Concernant le féminisme, il y a également des croyances comme la cause du féminisme ne joue plus un rôle parce que l'égalité de chance est déjà éteinte et qu'il y aurait des luttes qui sont prioritaires comme la survie de notre planète, etc. etc. Comme je l'ai déjà dit, les hommes devraient se sentir concernés pareillement à la lutte pour l'égalité dans notre société. Pourquoi le féminisme n'est pas un mouvement social qui est très large et répandu dans notre société? Pourquoi ce mouvement reste marginal? Bon, pour répondre un peu à cette question-là, on a notre prochaine rubrique, c'est « Une féministe, c'est quoi ?»
L'ennemi du féminisme, ce ne sont pas les hommes, ni même les machos, c'est le patriarcat. Le patriarcat désigne une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes.
Alors par exemple, il y a Christine Delphi qui en parle dans son livre qui s'appelle « L'ennemi principal ». Donc l'ennemi principal, qui est-il? Eh bien, pour cette féministe matérialiste, il ne s'identifie ni à l'homme, avec une majuscule, ni aux hommes en général. Et ce n'est en effet ni une essence, ni un groupe naturel, c'est un système. Or, ce n'est pas non plus, ou plutôt pas principalement, pour cette théoricienne qui s'inspire de Marx, l'ennemi principal, c'est ce qu'elle a choisi d'appeler le patriarcat, à savoir un système autonome d'exploitation et de domination. Elle a entrepris depuis plus de 20 ans d'en constituer la théorie, très exactement l'économie politique du patriarcat. Que ce féminisme soit un matérialisme, Ça veut dire que ce sont des pratiques sociales, matérielles, qui rendent compte de la domination patriarcale sur les femmes. Donc, elle étudie ça. Pas parce que les femmes seraient spécifiques, mais parce que c'est un type d'oppression spécifique. Et dans le deuxième volume de L'ennemi principal, elle s'attache à faire entendre des propos logiques, ce qui est moins facile qu'on ne l'imagine sur cette question-là.
Et alors, est-ce qu'un homme peut être féministe ?
Effectivement, un homme peut être féministe, mais ça peut être une difficulté pour lui parce que ça implique un engagement, une prise de conscience et peut-être aussi les pertes de privilèges qui sont dues à sa condition d'homme. Et puis, ça peut impliquer des critiques comme... c'est vu comme un certain manque de virilité, ne serait-ce que dans la dénomination. Et puis aussi parce que le féminisme dans notre société en général a une très mauvaise vision. Et puis... ça peut aussi entraîner des mauvaises compréhensions de la cause.
Ben, en fait, lié au mot féministe, voilà, il y a, comme j'ai déjà dit dans l'introduction, il y a les mots femmes dedans. Alors, il y a aussi d'autres mots pour ceci. Il y a les mots antisexisme et pro-féministe même. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire qu'est-ce que ça veut dire explicitement?
Alors, l'antisexisme, c'est le mouvement qui s'oppose aux discriminations entre les hommes et les femmes. Et ce terme peut poser problème, du moins quand il est employé par des personnes qui refusent de se dire féministes. Parce que le féminisme, c'est une doctrine qui a pour objet l'extension des droits civils et politiques des femmes jusqu'à obtenir l'égalité avec ceux des hommes. Personne n'a jamais mené de lutte politique au nom de l'antisexisme. Le versant politique de l'antisexisme, c'est le féminisme. Et il y a de nombreuses personnes, bien qu'elles se déclarent antisexistes, qui ne voient pas ou refusent de voir le caractère politique de la lutte contre le sexisme. Et les termes humanisme, égalitarisme ou antisexisme ne font pas apparaître le sujet politique de la lutte dont il est question. Alors, il y a aussi le terme pro-féminisme, donc, qui est un terme pour désigner des hommes engagés dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes. Dans sa tribune de 2009, Didier Gou s'opposait à l'idée d'être un homme féministe, malgré sa sympathie pour le mouvement. Et son argument, c'est qu'un homme n'est pas une femme, il ne peut pas s'impliquer dans la défense des droits des femmes comme s'il s'agissait des siens. Il ne peut pas être féministe. D'autant plus que si la présence des hommes dans les mouvements féministes peut sembler être un gage de légitimité et d'objectivité, un peu comme lorsqu'un hétéro se positionne en faveur du mariage homo, la démarche peut être contradictoire lorsqu'on pense que ce sont des mouvements qui prétendent à libérer la femme de la tutelle masculine. Éric Fassin, un autre féministe, un sociologue qui travaille sur le genre, est lui aussi conscient du problème. Et il dit « J'hésite toujours en tant qu'homme à m'autoriser de ce titre de féministe. » Il ne faudrait évidemment pas que dans le féminisme aussi, les hommes prennent le pouvoir. Et sa solution, m'interdire de parler au nom des femmes, ou même pour les femmes, m'obliger à tenir un discours non pas sur les femmes, mais sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la blogueuse Hypatie a ainsi proposé un compromis, accepter que des hommes puissent se ranger aux côtés des féministes et ne pas les qualifier de féministes, mais de pro-féministes.
Y a-t-il d'autres mots pour désigner les hommes féministes ?
Sinon, d'une manière générale, l'antipatriarcat, la lutte antipatriarcale regroupe tout ça. on va écouter le témoignage d'un enseignant.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Laurent Albert, enseignant, 38 ans. Je me dis féministe, mais je milite pas pour le féminisme. On m'a fait remarquer que les hommes et les femmes n'étaient pas traités de la même manière, qu'il y avait des allants de soi qui étaient plutôt dévalorisants pour les femmes. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Quand on a tenté de me l'expliquer, au départ j'étais réfractaire, je disais mais non, c'est une impression... Et puis à force d'exemple, j'ai fini par ouvrir les yeux et puis me rendre compte qu'effectivement il y avait vraiment deux poids deux mesures entre la façon dont sont considérés et traités les hommes et les femmes. Par exemple, ils vont être considérés plus sérieusement, du premier abord. On va plus faire confiance à un homme qu'à une femme, on va supposer qu'il est plus compétent dans des domaines techniques. sans qu'il ait rien fait pour le prouver, hein, juste parce que c'est un homme. Donc on aura plutôt tendance à lui donner des responsabilités. Si la femme, elle veut avoir des responsabilités, là, il va vraiment falloir qu'elle se déchire hein, pour convaincre et rattraper son retard du fait d'être une femme. Avant d'ouvrir les yeux sur les inégalités entre les hommes et les femmes et surtout sur l'injustice qui leur sont faites quant à la reconnaissance de leurs compétences, eh ben moi-même, je pensais que les femmes étaient moins douées que les hommes pour des tâches complexes. En moyenne. Et j'avais tendance à, si j'avais besoin d'un service à demander à un homme, j'étais plus sûr d'obtenir ce que j'attendais, quoi. Ça, maintenant, je le fais plus. Donc voilà une des différences. Maintenant, je vais estimer les femmes autant que les hommes. J'aurai un comportement qui sera plus neutre, quoi. Ma définition du féminisme, le féminisme renvoie à l'idée que les hommes et les femmes sont de même valeur et ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir le même pouvoir décisionnel dans un mouvement féministe? Ben, pour moi, la réponse, d'après mon point de vue sur le féminisme, est évidente, et la réponse est oui. Par principe même de l'idée du féminisme qui renvoie à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, si on commence à pas attribuer le même pouvoir aux hommes et aux femmes, dans quoi que ce soit, les mouvements féministes y compris, on s'éloigne du féminisme. Est-ce qu'il est différent d'être un homme féministe ou une femme féministe? Au départ, l'idée du féminisme, on la comprend de la même manière. Sauf que les femmes, elles, qui subissent les injustices, elles vont en avoir une vision plus pratique qu'un homme. On aura une vision plus théorique. C'est-à-dire, il peut très bien se mettre à la place d'une femme, mais il n'aura pas vécu ce qu'elle a vécu. Je pense qu'il ne se rendra jamais vraiment compte de ce qu'on ressent, ou généralement aura plus de mal à comprendre vraiment tout le ressenti, avec tout le passif et tout le vécu d'une femme. J'ai jamais eu de problème à me dire féministe auprès de mes proches, que ce soit au travail, dans la famille, les amis, ou à peu près tous les milieux que je suis amené à fréquenter. Je dis pas que je le dis aussi facilement que n'importe quoi. Rien que le mot féministe manque un peu de virilité, quoi. Rien que dans sa consonance. Mais j'hésite pas à le dire pour autant. Pour un homme, je pense qu'il est plus dur de vivre avec une féministe. Parce que une féministe, elle va pas vouloir se taper toutes les tâches ménagères, elle toute seule. Alors que s'il vivait pas avec une féministe, et il pourrait laisser sa compagne faire tout le boulot pour lui. Donc là, comme il va devoir partager les tâches ingrates plutôt que de rien faire, oui, c'est plus dur. C'est plus juste, mais c'est plus dur. Si j'avais quelque chose à dire aux autres hommes concernant mon vécu féministe, ce serait que je me suis rendu compte que je pouvais être sexiste sans m'en rendre compte, tout en cherchant à pas l'être, mais parce que c'était invisible à mes yeux, quoi. Je ne m'en rendais pas compte. Donc peut-être que je pourrais conseiller aux autres hommes d'essayer de faire attention à voir si eux aussi, s'ils ne se pensent pas sexistes, le sont-ils vraiment pas.
Alors, comment prendre conscience de la domination masculine et du besoin d'égalité dans ce cas? Et donc, quel est l'objectif du féminisme?
Alors, l'objectif est de sortir du patriarcat, tout simplement, et de mettre fin à un système oppressif qu'on endure et qui n'a que trop duré pour arriver à l'équité et au bien-vivre de tout le monde.
Mais est-ce que c'est juste le problème de quelques individus du macho?
On ne pense pas que c'est qu'un problème individu de macho, qu'il y a quelques hommes qui sont méchants, ou voilà, qu'il y a des hommes bons et des machos, et que c'est une question que des couples. Ça, ce n'est pas vrai. On ne cautionne pas les discours qui prétendent que la domination masculine sert à l'effet uniquement de quelques hommes, où il y aurait les bons et les méchants. Cette vision est trop simpliste et manichéenne pour décrire la réalité.
Le féminisme ne risquerait-il d'inverser les rapports de force?
Alors, sous prétexte que l'égalité des droits aurait été atteinte, il est courant d'entendre aujourd'hui que les féministes ne peuvent désormais désirer que dominer les hommes à leur tour. Cet argument suppose donc l'existence de l'égalité. Il est devenu habituel de distinguer féminisme de la première vague et de la seconde vague, et pour résumer, la première vague revendiquait l'égalité des droits, tandis que la seconde, qui commence dans les années 60-70, vise l'égalité réelle, en s'attaquant au fondement de la domination masculine et en cherchant à changer les mentalités. Donc on a beau jeu de dire « vous l'avez l'égalité », si par ça on entend l'égalité en droit. Oui, certes, les femmes peuvent aujourd'hui voter, travailler hors du foyer, ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Cette égalité restera cependant théorique tant que persisteront les discriminations, les stéréotypes limitant les possibilités des femmes, les violences de genre, la culture du viol, et tout ça, on peut le voir dans les chiffres. Donc non, l'égalité n'est pas atteinte, et c'est pourquoi les féministes continuent à se battre.
Mais l'égalité n'est-elle pas acquise ?
Non, loin de là, il y a toujours en France chaque année 86 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol, dont les auteurs sont des hommes à 97%. Et il reste quand même des choses à régler là, non ? Les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes permettent ces violences. Parce que nous sommes des femmes, les normes sociales nous attribuent des places subalternes dans la majorité des régions du monde. Et dans le même temps, les garçons et les hommes sont conduits à exercer des rôles dominants. Le résultat, c'est que dans le monde, une femme sur trois sera victime de coups, d'abus ou de viols, ou d'autres formes de violences au cours de sa vie, soit 1 milliard de femmes à travers le monde, selon les chiffres de l'ONU. Ce triste constat fait des violences à l'égard des femmes la violation la plus fréquente des droits humains. Et en France, il reste la dissymétrie du pouvoir. Par exemple, 28% des femmes sont encadrantes de direction, 27% sont femmes à l'Assemblée nationale, 25% au Sénat, 14% sont maires, 6% sont présidentes de conseils d'administration des grandes entreprises, ou 5% sont présidentes de conseils généraux. L'égalité n'est pas acquise et je pense qu'elle ne pourra être acquise qu'en dehors de ces institutions.
Oui.
Alors, il faut se poser la question aussi si les choses n'évoluent-elles pas d'elles-mêmes. À un côté, on reproche aux féministes de se plaindre, mais en même temps, sans les féministes, on sera encore dans une société où les femmes n'ont pas le droit de vote, pas le droit de porter un pantalon, pas le droit d'avoir un compte bancaire, pas le droit de vivre sans mari. Ces choses nous semblent normales et acquises maintenant parce que cette évolution des mentalités et cette transformation sociale a lieu et elle a eu lieu grâce aux luttes féministes. Il faut quand même souligner et il ne faut pas arrêter de les défendre.
Dans ce cas, comment sortir de ces rapports hiérarchiques ?
La vraie difficulté, c'est que c'est un système social millénaire et qu'on ne peut pas s'en extraire immédiatement ni facilement, car c'est lui qui a façonné nos rapports sociaux. On ne peut pas s'extraire du patriarcat sans observer son fonctionnement et comment nous avons intériorisé ses fondements. Se déconstruire et le déconstruire, c'est parce qu'à l'analyse critique, rien ne justifie une organisation si inégalitaire. C'est pas naturel. C'est mis en place et reproduit depuis 2000 ans. Donc l'objectif, l'urgence, c'est pourtant d'en sortir car il le tue tous les jours. Alors faut regarder le patriarcat en face.
Alors comment prendre conscience de la domination ?
Alors cette oppression, elle passe inaperçue, homme comme femme. Mais les femmes ont une expérience concrète et désagréable du système patriarcal. La place faite aux hommes est tout de même plus confortable et ce sont donc logiquement les femmes qui ont le plus d'empressement à vouloir y mettre un terme. Eh bien, on pourrait écouter ce qu'elles ont à dire. Il s'agit de se dépendre de soi assez souvent et assez longtemps pour donner en soi une place affective et psychologique autre qu'annexe et subordonnée au vécu des femmes. Et ça implique une répétition d'abandon momentané des points de vue oppresseurs afin de faire une place intellectuelle plus importante et plus permanente aux points de vue opprimés.
Mais comment avoir des informations sur la situation ?
Dans la mesure où le vécu féminin est en permanence marqué par les effets de l'oppression, cette expertise prend une place importante. Il reste souvent conscience et concerne la dynamique oppressive en tant que telle. Au contraire, les hommes accumulent depuis l'enfance des informations, sentiments, intuitions et analyses sur le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie, puisqu'ils n'ont pas, en tant qu'hommes, à rendre des services ni à se soumettre aux femmes. Donc ne craignons pas non plus de consulter la littérature féministe, qui est souvent plus accessible que l'on pense. Internet en est rempli. Le collectif Debout prend soin de partager quelques lectures qui nous ont nous-mêmes aidés à prendre conscience de la situation.
Alors, il y a aussi des hommes féministes qui travaillent sur ces questions, comme par exemple Patrick Jean. Donc Patrick Jean, c'est un auteur et un réalisateur belge qui travaille en Belgique et en France et qui est très engagé pour l'équité femmes-hommes. Et son action, c'est de visibiliser la domination masculine et par là même de la dénoncer. Il est connu surtout pour son film qui s'appelle « La domination masculine ». C'est un documentaire d'enquête qui peut amener à comprendre comment on perpétue une situation égalitaire depuis des générations, en éduquant les filles d'une certaine manière et les garçons d'une autre, et en étant persuadé qu'on le fait pour leur bien. C'est un film qui montre plus qu'il ne démontre, et qui laisse au spectateur la possibilité de se rendre compte à quel point le fossé homme-femme est grand. Patrick Jean est également connu pour son engagement dans le collectif non mixte Homme Zéro Macho, dont on vous parlera dans la prochaine émission, donc en septembre. Et Patrick Jean est très engagé pour dénoncer les masculinistes, groupe qu'il a infiltré au Québec. Alors, les masculinismes, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, bah, c'est les pères violents qui occupent des grues pour défendre la souveraineté masculine. Patrick Jean, il a sorti un livre récemment qui s'appelle « Les hommes veulent-ils l'égalité ?» Et il y a aussi une conférence sur ce sujet. On vous partagera le lien sur notre site internet www.collectif-debout.org.
Et alors, les Beastie Boys, Maya?
Oui, c'est pour dire qu'on a le droit de se tromper et d'évoluer. C'est par exemple ce qui s'est passé au sein d'un trio de hip-hop new-yorkais qui s'appelle les Beastie Boys. À leur début, ils tenaient des propos machistes dans leurs chansons, notamment la chanson Girls. Et puis avec le temps, l'un des membres, Adam Yunch, est devenu bouddhiste et féministe. Et en 94, 15 ans après les débuts du groupe, il insère cette phrase dans son rap. « Je tiens à dire un petit quelque chose qui n'a que trop tardé. Le manque de respect envers les femmes doit être dépassé. » À toutes les mères et sœurs et épouses et amies, je tiens à offrir mon amour et mon respect jusqu'à la fin. Au MTV Music Awards, lors de la remise des prix en 99, Adam a pris la parole pour dénoncer le harcèlement sexuel que vivent les femmes et pour demander aux musiciens d'agir pour arrêter ça et que les nanas puissent aller à leur concert sans être importunées. Par la suite, il a aussi fait un communiqué disant « Je tiens à présenter formellement nos regrets auprès de toute la communauté gay et lesbienne pour toutes les merdes ignorantes que nous avons dit dans notre premier album en 86. Il n'y a aucune justification qui tienne, mais le temps a guéri notre stupidité. Nous espérons que vous accepterez ces excuses. » Voilà, les Beastie Boys, ils prouvent qu'on peut être con dans sa jeunesse et puis ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas grandir et apprendre des choses. De sa prise de conscience, ce qu'il dit, c'est « Le sexisme est si profondément enraciné dans notre histoire et notre société que se réveiller et en sortir, ça fait comme si je regardais la nuit des morts vivants, deuxième partie, chaque jour, tout le temps. En écoutant la chanson Song for the Men, certains vont me trouver hypocrite. Eh bien peut-être, mais dans ce monde pourri, tout ce qu'on peut espérer, c'est le changement. Je préfère être un hypocrite aux yeux de certains qu'un zombie pour toujours. » Alors cette chanson, on va l'écouter, je vous traduis les paroles. Qu'est-ce qui te donne l'impression et pourquoi donc te comportes-tu comme si tu avais le droit de regarder les femmes de haut en bas? Qu'est-ce qui fait que ce monde est si malsain et si malfaisant? Je sais que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es irrésistible? Qui a fait de toi le juge et le jury? N'as-tu jamais entendu parler du droit de ne pas être observé et importuné par d'autres? Qu'est-ce qui fait que ce monde est si malsain et malfaisant à toi de t'en rendre compte? On écoute la chanson.
I don't like your attitude, boy.
No.
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout et notre sujet d'aujourd'hui, c'est les hommes et le féminisme.
Donc maintenant, on va voir comment se construit la notion de masculinité et comment être viril et masculin en tant qu'homme.
C'est ça. Par contre, avant de répondre à ces questions, j'aimerais d'abord dire quelque chose de plus général sur la construction du sexe social. Parce que ceci me semble primordial pour une meilleure compréhension par rapport à la masculinité. Le sexe influence chaque individu dans sa construction d'identité. Il ne suffit pas d'être né avec un pénis ou un vagin pour être homme ou pour être une femme. Chaque société définit historiquement quels rôles sociaux elle attribue aux hommes et aux femmes. C'est la raison pourquoi les études de genre distinguent entre un sexe biologique et un sexe social, le genre. Le sexe, le fait d'être né avec un sexe masculin ou féminin, ceci joue un rôle important dans la construction de sa propre identité. Chaque personne se construit en tant qu'homme ou en tant que femme, avec les images données par la société. L'acceptation ou le refus de certaines images est libre. Par contre, dans les mœurs générales, il est attendu qu'un individu se laisse facilement caser soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Pour illustrer ce que je veux dire, il y a un exemple. Alors, une personne entre dans un magasin, elle a besoin d'un conseil sur un article. Elle s'adresse à une personne du personnel. Cette personne répond aux questions. Par contre, la personne consommatrice n'arrive pas à se concentrer sur les réponses techniques parce qu'elle est trop troublée. Et donc mal à l'aise par le fait de ne trouver aucun signe comportemental ou physique qui pourrait trahir le sexe de son interlocuteur ou interlocutrice. Bah, c'est ça la question. Cet exemple montre bien que pendant les premières rencontres entre deux personnes, le sexe biologique est enregistré par les interlocuteurs. Si le sexe d'une personne n'est pas facile à déterminer, la discussion peut être parasitée à un tel point que la personne qui est troublée n'arrive pas à se concentrer sur le sujet des conversations. On pourrait dire que cette personne est trop occupée à trouver des signes verbaux et non-verbaux qui trahissent le sexe de l'interlocuteur. Alors, tout ça pour dire que le sexe social n'est pas quelque chose de statique. Il doit être construit et reconstruit en permanence. On pourrait dire que pendant des interactions, les personnes font des rappels à leur sexe social selon des règles de jeu. Ces règles de jeu, bah, ça dépend du moment d'histoire et de la société, ces règles de jeu peuvent être des postures typiquement masculines ou féminines, par exemple s'accouder dans une porte style cowboy, ou ça peut être des rires féminins avec un secouement des cheveux, ou ça peut être avec des rappels explicites comme « toi, en tant que maman », ou « toi, en tant qu'homme, tu devras savoir ». Ensuite, les personnes se positionnent en tant qu'homme ou en tant que femme. Le fait d'avoir un sexe social n'est donc pas un caractère statique. Le sexe social doit être construit et reconstruit. Il est toujours en processus.
Quels sont les codes typiquement masculins ?
Alors, par rapport à la masculinité, on peut dire globalement que les statuts professionnels, les corps et la sexualité sont importants. Pareil, j'ai envie de dire ça un peu dans un exemple, j'espère que je ne le raccourcis pas trop. Voilà, exercer un métier dit masculin, comme chef de chantier, un bon exemple pour mettre en image les trois axes, statut professionnel, corps et sexualité. Avec le métier chef de chantier, on associe l'organisation logistique d'un chantier, le management du personnel. Alors, tout de suite, l'image d'un homme vient en tête, d'un homme carré, habillé avec un casque jaune, chemise, en chemise. Et voilà, qui fait des blagues, et pourquoi pas des blagues sexistes avec ses travailleurs. Alors, être un homme, ça signifie de ne pas apparaître comme une femme ou, encore pire, comme un homosexuel. Tout ce qu'on attache aux femmes est donc globalement interdit pour les hommes. D'un point de vue général, les femmes construisent leur féminité par la mise en œuvre des valeurs dites féminines, comme l'écoute, l'empathie, et les soins de l'autre. Ces valeurs ne se prêtent pas de mettre en image de la puissance qui est plutôt associée avec la virilité. Par conséquent, les hommes séparent deux des compétences comme l'empathie, l'écoute et les soins de l'autre. Ceci a comme résultat que beaucoup des hommes s'interdisent s'interdisent de quelque sorte l'accès à leur propre vie émotionnelle et relationnelle.
Pour continuer sur cette question, on a interviewé des hommes de notre entourage et on va écouter Johan.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Alors je me présente, je m'appelle Johan, je habite à Nancy depuis 4 ans. Je suis à Nancy pour mon travail et puis parce qu'on a décidé avec ma compagne d'habiter pas très loin de l'Allemagne. Et on a un enfant de 18 mois. Je milite pas pour le féminisme au sens où je vais pas organiser des actions féministes dans la sphère publique. Qu'est-ce que c'est le féminisme ? C'est la défense de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi une manière de lutter contre les dominations masculines que les personnes du sexe masculin peuvent avoir sur les femmes. Non, ça me pose pas de problème de dire que j'ai même des idées féministes, que le féminisme est important. Mais je crois que si on m'avait posé cette question il y a 5 ou 10 ans, j'aurais pas trop su répondre, et même il y a 2 ans, j'aurais pas su... Je me posais pas trop la question, en fait. Pour moi, c'était évident d'être antiraciste, mais féministe, ça l'était beaucoup moins, parce que ça me paraissait pas forcément si évident que ça, que les luttes féministes avaient pas vaincu, finalement, qu'on était proche de l'égalité, et que c'était... finalement, il y a encore beaucoup, beaucoup de stéréotypes et de sexisme, même chez les gens qui croient qu'il y a une égalité homme-femme. C'est clair qu'il y a des privilèges matériels qui sont reconnus scientifiquement et qui sont par exemple le fait que la plupart des femmes, à niveau diplôme égal, elles n'ont pas le même salaire. Après, il y a d'autres petits trucs comme par exemple la vente des objets de consommation pour un même objet qui va être vendu plus cher à une femme qu'à un homme alors qu'il n'y a pas de justification. Dans les médias, j'ai le rasoir, la coupe de cheveux, des trucs qui peuvent paraître débiles parce que les poils des femmes sont les mêmes que les poils des hommes. On se demande pourquoi les rasoirs des femmes devraient être plus chers. On se dit aussi que les femmes sont un peu bêtes de ne pas acheter les rasoirs des hommes, mais bon. Il suffit que ça soit marketé pour une femme pour que ça justifie un prix un peu plus cher pour un même produit. Privilège matériel qu'ont les hommes, c'est tout ce qui se rapporte à la sexualité aussi. Les hommes n'ont pas besoin de s'acheter tout ce qui permet de gérer les règles, quoi. Donc les serviettes hygiéniques ou le tampon, voire même la contraception, c'est souvent plutôt les femmes qui s'en occupent, donc qui payent. Ben en fait, on parlait des poils tout à l'heure, donc ça c'est peut-être un privilège symbolique que les hommes ont le droit de laisser pousser leurs poils. Sauf quand leurs compagnes veulent qu'ils se rasent la barbe. Pareil avec le surpoids, je pense qu'un homme va beaucoup moins être sensible au surpoids et au jugement qu'on a sur lui qu'une femme. Alors mon expérience féministe, en fait, c'est une expérience en tant que jeune homme et puis homme. Alors peut-être ça a commencé par la relation avec ma mère qui nous donnait des valeurs féministes et puis avec ma compagne. Je pense que le plus important dans mon quotidien, c'est, on va dire que ça m'a libéré de la pression sociale qu'il peut y avoir sur un homme, sur le fait d'être viril, du comportement qu'on serait censé avoir avec les femmes, de drague ou de choses comme ça. Mon expérience féministe m'a libéré de certaines normes sociales qui sont aussi pesantes sur les hommes que sur les femmes finalement. Peut-être dans la sexualité aussi, dans la relation avec mon fils, le fait de réfléchir à qu'est-ce qui est le rôle d'un papa et d'une maman, est-ce qu'on doit forcément avoir des rôles socialement genrés ou pas, et du coup de prendre de la distance avec ce que nous impose la société, quoi. L'exemple flagrant, c'est la discipline, quoi, c'est l'autorité. Est-ce que le papa devrait représenter à tout prix l'autorité sur l'enfant ? Je pense pas qu'il y a plus d'autorité venant du papa que de la maman, quoi. On est à égalité là-dessus. Quand on est un jeune homme à l'adolescence, on a conscience d'un certain côté que on aimerait bien l'égalité, et de l'autre côté, il y a une pression sociale et une certaine crise d'identité où les jeunes hommes, on essaye de s'identifier avec des modèles. Pour les hommes, ça va toujours être des modèles masculins. C'est absolument tabou et interdit d'avoir un modèle féminin, et encore pire, homosexuel. En fait, la pire des choses qui peut arriver à un adolescent qui cherche son identité, c'est de s'identifier à un homosexuel. Pour les hommes, dans le contexte social actuel, c'est vraiment difficile, quoi. Et puis donc après, il y a la pression sociale qui s'exerce au collège, au lycée, au club de foot. Quand t'es étudiant aussi, c'est toujours pareil. Les soirées étudiantes, c'est des blagues sexistes à n'en plus finir. Bah du coup, c'est très très difficile d'échapper à ça. On est obligé d'en rigoler parce que sinon, on est quelqu'un de pas drôle, quoi. Moi, peut-être aussi, ce qui m'a beaucoup libéré, c'est de voir des féministes rigolotes. Vous pouvez rigoler sans blagues sexistes. Et que ça, c'est quand même bien, quoi. Voilà, donc le féminisme, c'est pas quelque chose de triste, et comme on pourrait le croire. Est-ce qu'un homme peut être féministe? On peut être féministe dans les idées, après, les hommes, c'est pas à eux de libérer les femmes. Par contre, je pense qu'on peut se libérer du sexisme, et que ça, c'est en ça que les hommes peuvent être féministes. C'est-à-dire qu'ils peuvent se libérer de leur sexisme par rapport aux femmes, mais aussi du sexisme qu'eux-mêmes subissent en tant qu'hommes, parce que le sexisme, c'est certes la domination des hommes sur les femmes, mais c'est aussi une certaine pression sociale sur les hommes, pour qu'ils aient un certain comportement vis-à-vis des femmes. Et je pense qu'être féministe en tant qu'homme, c'est une certaine libération, donc oui, on peut être féministe.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure. Les hommes sont leur tige horizontale, leurs petits siphons, leurs deux babales, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes sont leur petit sceptre dans leur culotte, leur petit périscope sous la flotte, sont le bâton ou la carotte. Les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braquettes, dans des gros rires à la buvette, les hommes. Ils se racontent leurs petites guerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en meulière, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins qu'une sorte de hors-cité, un homme. J'aime les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous. Les hommes s'aiment les femmes à la folie, passives, muettes, mais jolies, de préférence dans le lit. Des hommes au babirou ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, s'aiment les femmes sans espoir. Les hommes prostituées ou pénélopes, apprivoisées ou antilopes, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus les Tibétains, fricassés les Africaines, sont indignés les indigènes. Les hommes sont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux châtelaines et le tablier à Mémène. Les hommes. Excusez-moi, mais elle me gratte ma pauvre peau de phallocrate dans la région de la prostate. Des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir de votre mafia, votre empire. Des hommes, à chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
À Alors vous êtes sur RCN 90.7 et sur Radio Déclic avec le collectif Debout. Aujourd'hui, on parle des hommes et du féminisme. Alors voilà, on parle du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système hiérarchique, en fait, qui permet aux hommes d'avoir un pouvoir sur les femmes. Et à l'aide de différentes stratégies, et notamment de la stratégie de la violence. Et y a donc une question qui se pose sur comment les hommes peuvent participer à cette lutte. On en reparlera encore dans notre seconde émission. Une autre question, c'est: est-ce que la domination des hommes touche également les hommes ?
Donc oui, on peut dire que cette domination les touche également, parce que on peut voir par exemple dans le domaine du travail une certaine compétition entre hommes. Ensuite, socialement, on peut voir que s'ils ne respectent pas certaines normes dites masculines comme la virilité, l'autorité, l'hétérosexualité, eh ben, ils seront victimes d'insultes dites un peu... entre guillemets, féminisante et ou homophobe, donc qui touche un peu à la virilité, ce qui rapporterait en fait à être une femme, et c'est un peu un effet castrateur en fait. Ensuite, il y a aussi le fait que ils ont une certaine difficulté à montrer leurs sentiments, et pour quelqu'un, pour n'importe qui, une femme ou un homme. Et même pour leurs propres amis, c'est pas la même façon d'exprimer l'amitié pour entre femmes, disons, plutôt qu'entre hommes. Ensuite, on peut le voir aussi sexuellement, en fait, il y a aussi une espèce de pression qui tendrait à penser qu'un homme est fait pour le sexe, et que s'ils n'ont pas énormément de partenaires sexuels, et ben alors c'est pas vraiment un homme. Et parce que paraîtrait que c'est dans la nature de l'homme de coucher tout le temps.
Oui, c'est facile, l'argument naturel, hein, pour justifier tout ça.
Alors, moi aussi, je peux répondre à la question. La domination masculine touche également les hommes, ça c'est un fait. Les hommes sont touchés également par la domination masculine. On parle facilement de l'oppression des hommes sur les femmes, mais on oublie facilement de parler sur l'oppression des hommes sur les hommes. Car cette oppression, c'est un tabou. Et il est invisible. La hiérarchie entre hommes est mise en place par des jeux compétitifs entre eux. C'est entre eux parce que la plupart des temps, les femmes sont exclues volontairement. Déjà, à partir des 4 ans, les garçons apprennent que les jeux compétitifs sont nécessaires pour prouver sa masculinité. Ils apprennent à apercevoir l'autre comme un concurrent potentiel. Les jeux dits typiquement garçons sont des concours d'épées ou des rôles, bon, ça c'est, ou la comparaison des pénis aussi. L'exclusion et discrimination des filles sur le terrain des sports, par exemple dans le foot. Et dans l'adolescence, l'excès d'alcool ou l'excès de vitesse de moto, etc., etc. Très tôt, les garçons apprennent de contrôler leurs émotions. Oriane, elle a déjà parlé de ça aussi. Ils apprennent de ne pas montrer faiblesse et d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. À l'âge adulte, les jeux compétition ne disparaissent pas, mais ils changent de forme. Le jeu de compétition trouve lieu, par exemple, dans la politique, dans le club de sport, à l'église, au militaire et dans la vie professionnelle. Il est bien connu que la majorité des auteurs sont des hommes par rapport à les violences, mais en même temps, les hommes sont aussi victimes de violences perpétrées par d'autres hommes. Les hommes sont les victimes les plus fréquentes dans les lieux publics. Pendant les jeux compétitifs, les hommes et les garçons ne vivent pas uniquement des sentiments négatifs liés à la compétition, ils vivent également des moments d'une forte solidarité et camaraderie.
Oui, moi je voulais rajouter quelque chose sur justement, alors si les femmes sont douces et dévouées aux autres, et si les hommes sont forts et durs et centrés sur eux, voilà, c'est un objectif, et l'objectif c'est la mise en application de la situation de pouvoir hiérarchique. C'est l'expression du contrôle social à travers les aptitudes qui sont développées pour les hommes et pour les femmes, mais cette aptitude, justement, elle est là pour perpétuer le patriarcat. Et s'il n'est pas toléré pour un homme d'être faible, c'est parce que ça remettrait en cause sa position de supérieur.
Oui, c'est ça. Je reviens juste aux jeux compétitifs. Je n'avais pas fini là-dessus. Alors, pendant les jeux compétitifs, les hommes et les garçons ne vivent pas uniquement des sentiments négatifs, ce qu'on pourra croire. Parce que si moi, je pense à la compétition, ça me met tout de suite du stress. Ces jeux de compétition, ils sont là aussi pour créer des moments de forte solidarité et de camaraderie. Ça veut dire qu'à un côté, pendant ces jeux compétitifs, ils sont des concurrents, les hommes, mais en même temps des partenaires. Alors la camaraderie et la solidarité se construisent par l'exclusion d'autres groupes d'hommes et surtout par l'exclusion des femmes. Le plus important dans les jeux compétitifs n'est pas forcément de gagner. Les hommes donnent l'estime à l'autre en acceptant un défi et en allant jusqu'au bout de l'épreuve. Ça s'explique aussi pourquoi des hommes peuvent développer des ambitions incroyables qui dépassent leurs propres limites et qui sont tout simplement violentes. Un exemple des jeux combatifs et des camaraderies, c'est pas forcément violence contre les femmes, mais voilà, c'est quand même un bon exemple, je trouve. Alors, il y a des étudiants masculins qui se voient pour se boire la gueule ensemble. Et alors, dans cette soirée-là, à un côté, ils sont des concurrents. C'est la question qui va réussir d'avaler le plus d'alcool, et de l'autre côté, ils sont des camarades. Alors rien la participation au jeu de se boire la gueule, ils se donnent déjà l'estime l'un à l'autre.
Ce que c'est d'être un homme, dis-moi quels sont tes critères pour rester dans la norme. Et puis dis-moi que tu me détestes, on se quitte et c'est bien. Que vouloir être beau, c'est pas masculin. Quand ça parle d'amour, toi tu voudrais qu'on s'explique comme des hommes, comme des sourds. Et moi que veux-tu que je te dise, on n'est pas fait pareil. Je suis comme je suis, garde tes conseils. Alors laisse-moi, j'ai pas envie de te plaire.
Comment réfléchir sur la domination masculine en tant qu'homme sans se sentir accusé personnellement ?
Alors, de se pas sentir accusé, ça c'est, je pense, très difficile en tant qu'homme. Comme je l'ai déjà dit avant, notre construction d'identité est en lien avec une socialisation féminine ou masculine, ou dit avec d'autres mots, être femme ou être homme est fortement en lien avec sa construction de soi. Pendant des discussions critiques sur la domination masculine, il est donc normal qu'un homme se sente visé personnellement. Si les hommes sont décrits comme violents, il est aussi normal que la première réaction d'un homme peut être « Mais il y a aussi des hommes qui subissent des violences. » Alors, je pense l'art, on peut parler d'un art ici, même si je ne veux pas faire des conseils, mais l'art de ne se pas sentir accusé personnellement et de ne pas prendre position en tant qu'homme pour tous les hommes. Alors, j'ai envie de dire ça avec... bon, je ne suis pas homme, mais je peux peut-être expliquer cette petite chose que je vais dire avec le fait que moi, je suis étrangère. Et alors, du coup, ça m'arrive souvent qu'il y a des personnes qui s'adressent à moi. Toi, tu es allemande, tu devras savoir... je donne un exemple là. Je dis, par exemple, pour les congés parentaux, ça marche comment en Allemagne? Et alors, du coup, je me trouve tout de suite de la position... Alors, en Allemagne, je suis demandée, on s'adresse à moi, je suis une experte pour tous les Allemandes, ou pour tous les Allemands en Allemagne, et je dois prendre position par rapport à tous les Allemands. Et alors ça, bon, peut-être pas sur la question des congés parentaux, mais si par exemple cette question est sur des mauvais clichés, ça peut être vite blessant. Et souvent, je me sentais très touchée ou accusée ou des choses comme ça. Et alors du coup, je me suis appris... de plus prendre position pour tous les Allemands. Je réponds que pour moi. Ça veut dire, voilà, à la question, par exemple, alors les congés parentaux en Allemagne, ça marche comment? Je réponds, alors j'ai une petite enfant, il est né en France, alors du coup, je ne peux pas te répondre comment ça marche en Allemagne, il me manque des expériences par rapport à ceci. Et voilà, et sinon, Ariane, elle a aussi envie de dire comment... Comment réfléchir sur la domination masculine en tant qu'homme sans se sentir accusé?
Donc, ce qui serait bien, c'est essayer de prendre du recul et écouter aussi les femmes parler, en fait, écouter les principales concernées, victimes de sexisme, tout ça. Et puis aussi, s'informer le plus possible sur les différents types de sexisme qui sont visibles. Et réagir au sexisme ordinaire et arrêter de détourner le problème en disant que tous les hommes ne sont pas comme ça. On sait très bien que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de réagir.
Alors, cette position d'oppresseur, elle peut être difficile à porter, certes, mais malgré tous les avantages qu'elle apporte. Et Patrick Jean, il en parle très bien donc dans sa conférence « Les hommes veulent-ils l'égalité ?» Et il nous parle aussi des masculinistes, un milieu qu'il a infiltré. Et attention, attention.
Donc... cet argument, cette question de la souffrance, elle est très dangereuse, elle est très pernicieuse et c'est un piège dans lequel on peut tous tomber parce que quand on commence à se remettre en question, à découvrir qu'il y a un problème, alors moi effectivement je n'échappe pas à la règle, j'ai commencé avec d'autres engagements politiques, d'autres découvertes de grilles, d'analyses sur les rapports de domination, sociaux, migration, pauvreté, etc. Et puis à un certain moment on se dit, et puis il y a des femmes qui vous disent, bon mais attends, ce que tu dis là, ça s'applique aussi aux femmes, on est bien obligé de le reconnaître. Quand on fait ce travail, tout à coup, on se remet en question soi-même. On commence un travail, idéalement, un travail de déconstruction. Et là, c'est pas hyper confortable. C'est pas hyper jouissif de tout à coup se dire « Oui, quand même, j'appartiens à un groupe qui a des privilèges. Je bénéficie d'une injustice inouïe depuis que je suis enfant. Je me suis mal comporté. » Certainement, à certains moments, même si je n'ai jamais frappé une femme, même si je n'ai jamais commis un viol, je me suis mal comporté. C'est pas extrêmement glorieux, on n'est pas hyper content de soi. Et donc, le danger, et je pense qu'on souvent on passe par là, on passe par une période d'autoflagellation. Ah, je suis un méchant homme, ah vraiment, c'est terrible, je suis un homme, etc. Et le problème, c'est que pendant qu'on passe son temps à se flageller, ben, on pense à soi, on ne parle que de soi et on tourne autour de son nombril. Donc, à un certain moment, il faut dépasser ce stade-là. Deuxièmement, la question de la souffrance. Tout nous pousse, c'est très difficile à décrire, mais tout nous pousse en tant qu'homme à ressentir. C'est-à-dire, ah oui, tu te remets en question et tout, et en plus, tu n'en es même pas payé. Parce qu'effectivement, on a la sensation qu'on fait un tel effort qu'on devrait immédiatement, en retour, être payé de quelque chose. Ça nous semble extrêmement juste, extrêmement légitime. Et donc, cette question de la souffrance... C'est ce qui fait qu'un certain nombre de groupes, notamment au Québec, c'est arrivé, d'hommes qui voulaient être proches des mouvements féministes sont devenus les plus grands masculinistes. Parce que ça commence par là, ça commence par l'idée, ah oui, mais après tout, moi j'ai pas décidé d'être un homme. Donc je suis enfermé dans un genre qu'on m'a imposé, dans des attentes, dans des injonctions qui me sont imposées. Ah oui, donc cet enfermement, quand même, c'est pas confortable, ça me fait souffrir. Ah oui, elle souffre, bah oui, moi aussi. Ah ben nous souffrons. Mais on entend qu'elles. Comment ça se fait que elle, leur souffrance, elle est hyper médiatisée, et nous, notre souffrance, on ne l'entend pas. Et puis là, il y a un type derrière qui dit « Ah oui, t'as bien raison, mon frère. Et d'ailleurs, t'as bien vu, nous, les hommes, on se suicide beaucoup plus, et on n'a pas le droit à voir nos enfants, et ceci, et cela, et voilà. Et ça y est, et on est déjà en chemin vers le haut de la grue. »
Alors, quand même, un petit commentaire. Il me semble qu'il est plus difficile de subir des violences que de les faire subir. Alors c'est quand même une situation qui peut être inconfortable. Remettre en cause la construction sociale de la masculinité hégémonique, c'est porter un regard critique aussi sur ce qu'on pouvait faire tranquillement sans avoir l'impression d'abuser, et prendre en compte la dimension de l'autre. Ça coûte de l'énergie psychique, affective, voire l'abandon ou la perte d'avantages concrets, mais parce que cette masculinité est construite, il est possible de la refuser. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. À quoi sert la masculinité ? Elle sert à la conservation du pouvoir. On verra ça plus en détail dans la seconde émission. Pas d'émission en août, hein, on se retrouve en septembre. On entendra d'autres témoignages d'hommes féministes. On parlera aussi des actions concrètes que peuvent mener les pro-féministes. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Notre temps est arrivé, connaissons notre force, les femmes découvrons-nous des